Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une très bonne semaine jusqu'à maintenant et que le Seigneur vous bénit à tous les jours. Bien sûr qu'il vous bénit à tous les jours, mais que vous demeurez fidèle et ferme avec lui dans la foi, dans la parole. Et bienvenue encore une fois dans cette session, une 44e. Donc, on s'approche de la 50e. On s'approche de notre jubilé. Dieu est bon. Donc, nous voilà. On est ici pour partager la parole de Dieu encore sur le sujet de la thématique du service en temps de défi. Et on va prier. On va mettre tout entre les mains du Seigneur et on va demander que le Seigneur nous dirige et nous parle. Donc, élevons la voix, prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour cette nouvelle opportunité, Seigneur, de pouvoir partager ta parole, de pouvoir plonger nos regards, Seigneur Jésus, en toi, dans ta parole, dans ta sagesse, de pouvoir, Seigneur Jésus, comprendre plus sur toi, comprendre plus sur nous aussi, Seigneur, et pouvoir avancer, Seigneur, dans la direction que tu nous donnes. Seigneur, mets tes paroles, Seigneur, dans ma bouche. Et l'ordre, Seigneur, dans les idées, qu'il y ait, Seigneur, une lignée, Seigneur, de ta pensée qui soit partagée, qui soit présentée, exposée. Que chaque personne, Seigneur, qui entendra, Seigneur, ceci, soit enrichie, soit bénie, soit édifiée, Seigneur, pour la gloire de ton nom précieux, Jésus. Amen. Amen. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de le passage dans Marc chapitre 11, et nous avions dans le fond parlé de deux éléments, ou deux événements plutôt qui sont ensemble. Le premier étant le figuier qui reçoit un jugement assez fort, et également le temple, Jésus qui en va dans le temple et qui chasse les vendeurs du temple. Et grosso modo, qu'est-ce qu'on a dit? C'est que nous sommes le figuier. Nous sommes ce figuier appelé à donner du fruit quand le Seigneur en a besoin. Et il ne s'agit pas de donner quand ça nous convient, il ne s'agit pas de donner quand ça nous tente, quand on est dans une bonne journée, quand toutes les conditions gagnantes sont là. Non. Et également, et le passage, on sortait de là, une autre leçon, c'est que nous sommes le temple de Dieu, et nous sommes donc dédiés à Dieu, et appelés à faire connaître Dieu, hein, et appelés à aider les gens à avoir une rencontre avec Dieu. Et que, au même titre que Jésus disait des gens qui étaient là que c'était devenu une caverne de voleurs, à cause du commerce et à cause de l'aspect commercial qui avait pris davantage, mais aussi de l'abus qui s'y pratiquait. Autant aussi, nous pouvons voler Dieu d'âme et nous pouvons voler aussi des gens de la présence de Dieu, de la connaissance de Dieu, si nous ne sommes pas authentiques. Si nous sommes plus un spectacle qu'autre chose, si ce que nous vivons, c'est juste de l'apparence, et donc c'est juste de l'hypocrisie, mais que réellement, fondamentalement, nous n'avons pas été transformés, nous ne sommes pas authentiques, et surtout, nous ne portons pas de fruits. Et un autre point qu'on avait vu, c'est qu'il y avait trois éléments, dans le fond, dans ce que Jésus explique après. Il parle de la prière, il parle de la foi. Et il parle du pardon, et tout ça va ensemble. Il faut comprendre que pour porter du fruit, il faut vivre une vie de prière, une vie de foi et une vie de pardon, ou plutôt une vie de grâce. Parce que le pardon découle de la grâce. Donc si nous vivons dans la grâce de Dieu, eh bien le pardon pourra être possible. Nous serons en mesure de pardonner comme Jésus nous a pardonné, pas juste de pardonner comme le monde pardonne, mais de pardonner comme Jésus a pardonné. Donc l'importance de vivre dans cette condition de grâce qui était la même que Jésus dans le fond. Aujourd'hui, nous allons Continuer un peu dans cette lignée, je vous avais dit qu'on allait parler un petit peu plus à propos de porter du fruit. Donc, je vais juste partager l'écran, ce ne sera pas bien long. Et puis, on va pouvoir se lancer là-dedans. Donc, voilà, on y est presque. OK. Donc, aujourd'hui, on va parler sur porter du fruit et c'est dans la leçon qu'on va faire un petit peu le résumé de la semaine dernière. Donc, qu'est-ce que nous avions dit la semaine dernière? On avait parlé du figuier. On avait dit que, au verset 13, dans le fond, Jésus, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ça? C'est que, bien, la récolte de la figue a lieu à la fin de l'été, et qu'à ce moment-là, c'était le début du printemps. Donc, on pourrait se dire, ben, pourquoi est-ce que Jésus, dans le fond, est allé voir le figuier pour trouver des fruits si la Bible même dit que ce n'était pas la saison des figues? Donc, est-ce qu'il y a une contradiction là? Eh bien, la réponse, c'est non. C'est que déjà au printemps, le figuier produisait un petit fruit, une figue plus petite, et elle se développait au début du printemps, qu'on appelle la figue bréba. Et donc, Jésus, s'approchant de la figue, faisait un lien avec cette petite taille, cette petite figue qui se développait au printemps, donc qui devait avoir déjà du fruit avec ce figuier-là. Et finalement, bon, il s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas. Les feuilles étaient attirantes, elles donnaient l'impression qu'il y avait du fruit, mais dans le fond, il n'y en avait pas. Et donc, le figuier n'était qu'une apparence. Donc, avec tous les éléments extérieurs d'une plante ou d'un fruit, plutôt d'un petit arbre qui donne du fruit, mais qu'en réalité, il n'y avait rien. Et combien de gens vivent d'apparence? Combien de gens sont professionnels pour porter un déguisement dans la vie, pour porter un masque? Je ne parle pas du masque de la COVID, mais porter un masque pour donner une autre impression de ce que nous sommes réellement. Ou d'essayer de tromper des gens pour avoir un certain statut, une certaine position sociale, dans une organisation, dans une communauté, bref. Mais qu'en réalité, lorsqu'on tasse un petit peu les feuilles, lorsqu'on regarde un petit peu plus attentivement, on se rend compte qu'il n'y a rien. C'est juste une apparence, que c'est juste une façade. Et là, ça, c'est ce qui dérange le Seigneur. C'est que le figuier, pas juste aux yeux de Jésus, mais aux yeux de tous, se présentait comme ayant du fruit, comme étant riche, comme étant dans une position capable de donner quelque chose, et dans le fond, il n'y avait rien. Et la leçon qu'on avait retenue là, c'était que nous sommes le figuier. Donc nous sommes appelés à porter du fruit, pas juste à avoir une belle apparence, pas juste à avoir de belles feuilles, mais qu'il y ait du fruit véritablement, réellement dans notre vie. Et ça, on le voit également dans Jean chapitre 15, verset 2, qui dit: Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, l'objectif, il y a un objectif, là. Il faut que ce soit clair. Faut que ce soit clair en tant que serviteur, en tant que personne au service du Seigneur Jésus. Il faut que ce soit clair que oui, j'ai un appel dans ma vie pour servir Dieu, mais j'ai également un appel dans ma vie pour porter du fruit. Dieu s'attend donc à ce qui est un rendement, à ce qui est une production. Et ça, on le voit également avec la parabole des talents, qu'on ne va pas développer ce matin, je veux dire aujourd'hui, mais qu'on peut comprendre, on peut faire le lien et se dire, OK, il y a eu la parabole des talents, où le maître a donné des talents à différentes personnes, et l'objectif ou l'attente du maître était que ces talents-là produisent un rendement. Et donc, nous étant Jésus-Christ, Il y a un objectif aussi là-dedans pour que nous portions du fruit. Que nous portions du fruit. Donc le Seigneur s'attend à cela également. Ça s'attend juste pas juste à un service sans fruit. Non, il s'attend à un service avec du fruit et avec beaucoup de ce fruit-là. Et donc, on avait vu également que porter du fruit, c'est à travers une vie de prière. Ça commence avec une vie de prière. Parce qu'il disait, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais également au verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, la prière est un élément essentiel dans cette vie que nous sommes appelés à vivre, dans le fond, en Jésus, et dans une vie qui porte du fruit. Une vie de foi. Une vie de foi, c'est une vie qui a confiance en Dieu, qui met sa confiance, pour les petites comme pour les grandes choses, qui donne le contrôle à Dieu, dans le fond. C'est ça, avoir confiance. Si je te fais confiance, c'est parce que je te donne le contrôle de ma vie. De toute façon, penser que nous avons le contrôle sur notre propre vie, c'est illusoire. On n'a pas de contrôle sur le battement de notre cœur. On n'a pas de contrôle sur notre rythme respiratoire. Il y a tellement de choses de notre propre vie qu'on n'a absolument aucun contrôle, mais qu'on se crée des mécanismes des fois, ou qu'on se crée des arguments des fois, ou des raisonnements, pour essayer de nous faire croire que nous avons un certain contrôle sur notre vie, mais dans le fond, pas de contrôle, vraiment. Donc, si je n'ai pas le contrôle, ben, je préfère mieux que Dieu ait le contrôle de ma vie et je lui donne toute ma confiance. Et si je lui donne toute ma confiance, eh bien, je crois que ce qu'il a pour moi est bon. Donc, l'obéissance devient plus facile à ce moment-là. Voyez, parfois, la difficulté de l'obéissance, c'est parce qu'il y a un manque de confiance et il y a un manque de foi. Et on ne peut pas exiger à des gens, ou on ne peut pas parler à des gens d'obéissance à Dieu si à la base, le fondement de la foi ne s'y trouve pas. Ça ne va pas faire des chrétiens solides, ça ne va pas faire des chrétiens qui vont grandir sainement. Donc, le fondement de la foi est essentiel. Pour qu'il y ait cette confiance en Dieu, et par la suite, il y ait aussi une obéissance à sa parole. Donc, au verset 21, nous voyons Pierre qui se rappelle ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Et Jésus prit la parole et dit, « Ayez foi en Dieu. » Et il revient également dans le verset 24, il parle de la prière, mais il parle de la foi aussi, parce qu'il dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. » Donc, il parle comme si c'est déjà arrivé. La foi a cette capacité-là de nous projeter dans l'avenir, d'avoir une vision dans l'inconnu, mais de vivre dans le présent comme si nous l'avons déjà reçu. Comme si nous avons déjà atteint l'objectif. Et ça, c'est précieux de la foi. Parce que ça met ta vie dans une perspective complètement différente. Et donc, priez comme comment? Croyez que vous l'avez reçu. Et ayez foi en Dieu. Donc, une vie de foi, une vie de confiance, une vie d'obéissance est celle qui va porter du fruit. Et l'autre, c'est une vie de pardon, ou on pourrait dire une vie de grâce. Mais j'ai utilisé ici une vie de pardon parce que Jésus parle ici du pardon. Lorsqu'au verset 25, il dit, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, donc lorsque vous êtes debout, lorsque vous vous apprêtez à vouloir connecter avec Dieu, à vouloir vous approcher de Dieu, à vouloir développer une harmonie. Attention, c'est pas juste une relation avec Dieu, c'est une relation harmonieuse. Quand il y a la prière, quand il y a la foi, quand il y a l'obéissance, C'est parce qu'on mène une vie harmonieuse, une relation harmonieuse avec Dieu. Lorsque vous faites votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. C'est-à-dire, si tu n'es pas en harmonie avec quelqu'un, c'est ça que ça veut dire. C'est pas juste une relation, je te connais, tu me connais. C'est une relation harmonieuse. Pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc, ce n'est pas juste de dire, ben, j'ai une relation avec Dieu ou je suis en relation avec mes frères et ma relation se base sur, ben, je le connais, il me connaît, on se salue, on se donne la main, mais pas plus que ça parce que dans le fond, il m'énerve ou il y a des choses de sa vie où il a fait quelque chose, puis là, je l'ai mis dans une case. Et on est très bon pour faire ça. Hein? En passant, nous sommes très bons pour prendre quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose il y a 10 ans en arrière et on le met dans une case et il bouge pas de cette case-là, il bouge pas de cette catégorie-là. Et pour nous, jusqu'à la fin des temps, cette personne-là changera pas et sera pas capable de changer. Ça, c'est pas biblique, c'est pas chrétien, ça a aucune représentation de Jésus-Christ là-dedans. Donc, abandonnons cette pratique, abandonnons cette façon de penser des gens. La Bible nous parle d'avoir des relations harmonieuses et dans ce qui est dans notre capacité que nous soyons en paix avec tous les hommes. Et la paix, c'est une relation qui est harmonieuse. Donc, voilà, une vie de pardon, une vie de grâce. La prière entraîne une transformation dans la vie de la personne qui est sincère. La personne qui est authentique, qui est sincère devant le Seigneur, qui vient avec sincérité, honnêteté, humilité, c'est la personne qui sera changée à travers la prière. Une vie de foi, bien sans la foi, on le sait, Hébreux 11, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et comme on a dit, la confiance, l'obéissance, et bien sûr, j'ai oublié, la persévérance. Donc, si nous avons cette confiance en Dieu, si nous sommes obéissants à Dieu, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à persévérer, continuer à être fidèle dans cette voie-là parce que c'est la voie du succès pour porter du fruit. Et l'importance du pardon. Nous sommes ici, je suis présent devant cette caméra en m'adressant à vous en 2021 parce que le pardon de Dieu a atteint ma vie. Parce que la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ a touché ma vie. Parce que j'ai reçu le pardon de Dieu. Et donc, la puissance de ce pardon-là, la puissance de cette grâce-là, fait qu'aujourd'hui je sois ici. Et que je ne sois pas sous le poids des conséquences de la condamnation de mon péché. Et c'est la même chose pour vous. Et donc Jésus dit, ben, ce que j'ai fait pour vous, faites-le pour les autres. Donc pardonnez, parce que c'est une puissance. Le pardon est une puissance pour la délivrance. Le pardon est une puissance pour la guérison et pour bien des choses également dans la vie. Et ces trois éléments-là, on peut pas les feindre. Je veux dire, on peut pas jouer la comédie. Peut-être on peut tromper les gens, mais on peut pas tromper Dieu. Donc, n'allons pas dans cette direction-là parce que Jésus a été très clair. Ce qui est arrivé au figuier va arriver à toute personne qui va vouloir jouer une apparence. Toute personne, surtout dans ces éléments-là de prière, de foi, d'obéissance et de pardon, toute personne qui est fausse, tout chrétien qui est faux, tout chrétien qui joue la comédie va avoir des problèmes sérieux dans sa vie. De sécheresse, de stérilité. Il ne va pas avoir de bénédiction dans sa vie. Il n'y aura pas de fruits, il n'y aura rien. Parce qu'on ne joue pas avec cela. Donc, voilà pour la base, dans le fond, parce qu'on part d'ici. Donc, on comprend, il faut porter du fruit. Mais, OK, le pardon, la foi. Mais comment est-ce qu'on arrime tous les morceaux? Parce qu'il y a d'autres places dans la Bible aussi où est-ce qu'on nous parle justement de porter du fruit. Donc, comment est-ce qu'on met tout ça ensemble? On va aller dans Jean au chapitre 15. Donc, vous pouvez tourner dans Jean. Dans Jean chapitre 15, on va aller voir, quelques éléments qui s'y trouvent là, qui vont nous aider dans cela. Jean 15 nous parle du cep et nous parle des serments. Il dit que tous les serments qui portent pas de fruits sont retranchés, mais ceux qui portent du fruit seront émondés pour porter encore plus de fruits. Mais je veux attirer votre attention sur ce qui est dans le fond la clé dans ce passage-là. Et on le voit en lisant bien et en analysant les versets et qu'est-ce que Jésus est en train d'expliquer, de décliner également dans son explication. On arrive à sortir des éléments qui sont importants pour nous, qui sommes appelés à porter du fruit. Donc, premièrement, au verset 2, tout sarment qui est en moi. Verset 2 commence par cette phrase, tout sarment qui est en moi. Et là, il dit qu'il ne porte pas de fruits, il le retranche, mais tout sarment qui est en moi. Verset 2. Verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Verset 5, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. On retrouve encore les mêmes choses. On est juste au verset 5 et Jésus répète trois fois la même chose. D'être en lui, de demeurer en lui et que lui demeure en nous. Verset 7, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Là, on apporte un autre élément. Donc, c'est premièrement de demeurer en lui. Et là, c'est de demeurer dans sa parole. OK. Et au verset 9, demeurer dans mon amour. Donc, on peut ici ressortir trois éléments facilement. Trois éléments qui sont également à la base d'une vie qui va porter du fruit pour le Seigneur. Premièrement, demeurer en lui. Oui, c'est clair. Quand on prend le passage, on fait juste ressortir les éléments, on voit, c'est clair. Pour Jésus, ce qui est important pour porter du fruit, c'est de demeurer en lui et qu'il demeure en nous. Le deuxième, c'est de demeurer dans sa parole et que la parole demeure en nous également. C'est que nous vivions dans la parole, nous gardions la parole pour la mettre en pratique, mais qu'également cette parole soit dans notre cœur, soit en nous. Et troisièmement, demeurer dans son amour. Donc que je vive dans la grâce de Dieu, oui, mais que moi aussi je vive selon la grâce de Dieu, donc que je mette en pratique, que je sois obéissant par rapport à la grâce de Dieu. Donc voilà les trois éléments qu'on retrouve, et ça c'est clé. C'est clé parce que c'est là dans le passage où ce que Dieu parle de porter du fruit. Donc, et aujourd'hui, je veux vraiment que ce soit simple, parce que des fois, il y a des gens qui, tellement de raisons compliquent les choses, compliquent les éléments de l'évangile qui sont simples à comprendre. Et ce matin, et je dis ce matin parce que je suis en train d'enregistrer un matin, mais ce soir, ou peu importe la journée, le moment de la journée dans lequel vous allez écouter cette vidéo, l'important, bien-aimé, c'est de comprendre l'essentiel. Et quand je dis parfois, il y a des gens qui compliquent trop les choses et à la fin du discours ou de la conférence, c'est pas plus clair sur, OK, c'est quoi ma responsabilité? C'est quoi la partie de Dieu? Et si et ça. Et donc aujourd'hui, je veux vraiment que ce soit clair. Parce que il y a parfois de la confusion par rapport à c'est quoi porter du fruit, mais aussi de la confusion à hein, c'est quoi le fruit? Ou c'est quoi les fruits? Et là, il faut faire une distinction aussi qu'on va en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que le fruit selon la Bible, selon Jésus? Et donc, Focusons là où est-ce que pour Dieu c'est une priorité. Le reste, c'est accessoire. Ici, on parle de l'essentiel, du fondamental pour porter du fruit. C'est de demeurer dans le Seigneur, c'est de demeurer dans sa parole et de demeurer dans son amour. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Des gens peut-être sont à la recherche un peu de sensationnel, de quelque chose de nouveau, de frais, donne-moi un nouvel élément, une nouvelle révélation, parce que je suis comme tanné de toujours entendre la même chose. Mais c'est parce que c'est la base. La base ne changera pas. Tu changes la base, la construction va tomber, va s'effondrer. La base demeure la même. Demeure en lui, demeure dans sa parole et demeure dans son amour. Et des fois, il y a des chrétiens aussi qui disent, ben, on peut-tu explorer autre chose? Oui, mais c'est parce que déjà là, la base, tu ne l'as pas. Déjà, la base, elle n'est pas solide. Assure-toi de solidifier la base dans ta vie. Assure-toi de bien, bien revisiter cela dans ta vie et le Seigneur va te renouveler là même. Là où ce que toi, tu veux avoir du renouveau, tu vas tomber dans des choses qui sont inutiles, vaines et même déviantes de la parole de Dieu. Alors que Dieu va te renouveler là, où est-ce que tu crois le moins qu'il va te renouveler, dans les choses que tu connais déjà. Mais des choses peut-être que tu n'es pas à une maturité encore dans le Seigneur. Donc demeure en lui, demeure dans sa parole et demeure dans son amour. Maintenant, ici, ce qui est important de faire comme référence, c'est qu'il y a possibilité de faire une comparaison avec ce que nous avons vu dans Marc au chapitre 11 et avec ce que nous avons vu dans Jean chapitre 15. Et pour voir que dans le fond, Jésus, la pensée de Jésus, la pensée de Dieu, elle est riche, mais également, elle va toujours dans le même sens. Premièrement, dans Marc 11, on nous parle d'une vie de prière, une vie de foi, une vie de grâce. Jean 15 nous parle de demeurer en lui, de demeurer dans sa parole et de demeurer dans son amour. Pour demeurer en lui, une vie de prière est essentielle. La prière pour demeurer en Dieu, pour être connecté avec Dieu, pour être près de Dieu et que Dieu également vienne remplir notre vie, vienne remplir notre environnement, notre milieu, c'est par la prière. Ça commence par la prière. Ça commence pas par autre chose. Il faut pas remplacer la prière par autre chose. Rien ne peut remplacer la prière dans ta vie, bien-aimé. Rien ne peut et ne pourra remplacer la prière dans ta vie. Donc, pour demeurer en lui, une vie de prière. Pour demeurer dans sa parole, la parole et la foi sont étroitement liées. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu va venir édifier ma foi. Et ma foi va grandir encore plus basée sur la parole de Dieu. Donc, une vie de foi. Une vie de foi. Une vie de confiance en Dieu. Une vie d'obéissance à Dieu. Une vie de persévérance va être nourrie, va être propulsée par la parole de Dieu. Donc, de demeurer dans sa parole, d'être gardé dans sa parole, de garder plutôt sa parole, de veiller à sa parole pour la mettre en pratique. Et que cette parole-là soit en nous, va nous permettre de vivre une vie de foi et de vivre une foi, une vie de confiance, une vie d'obéissance, une vie de persévérance. Donc, les deux encore sont ensemble. Demeurer dans sa parole pour avoir une vie de foi. Et demeurer dans son amour. Demeurer dans son amour, c'est vivre de la grâce de Dieu, mais c'est également appliquer la grâce de Dieu et l'appliquer de quelle façon? À travers le pardon. Donc, vous voyez ce que Jésus parle par rapport au figuier, ce que Jésus enseigne aux disciples. Il le répète d'une autre façon lorsqu'il parle du cep et du sarment, mais les éléments clés, le fondement est là. Une vie de prière, demeurer en lui. Une vie de foi, demeurer dans sa parole. Et une vie de grâce, demeurer dans son d'amour. Voilà le fondement, bien-aimé. Voilà ce qui est essentiel aux yeux de Dieu, ce qui est important. Voyez, quand j'étais à l'université, et j'étais dans les cours, les professeurs nous donnaient toujours des petites astuces. Ils nous donnaient toujours une petite aide parce que il y avait énormément de choses à lire, il y avait énormément de choses à faire. Et donc, il était difficile de pouvoir se concentrer et se préparer pour l'examen parce qu'on couvrait tellement de matière. Mais à plusieurs reprises, les professeurs disaient, ceci va être à l'examen. Ou ça ressemble à une question de l'examen. Ou cet exercice-là, bah, vous allez le retrouver dans l'examen. Donc, pour nous, c'était un appel, une alerte, comme quoi, oh, il faut focusser là-dessus. Il faut vraiment s'attarder et bien étudier cet aspect-là de la matière, parce qu'on va la retrouver dans l'évaluation. Donc, pour notre évaluation, elle est importante. Avec Dieu, c'est la même chose. Si Dieu nous dit ces choses-là, ces éléments-là qu'on voit, qui sont devant vous, sont importants, allez pas ailleurs. Allez pas ailleurs. Étudiez ces choses-là de façon à pouvoir passer l'examen, de pouvoir être prêt pour l'examen. Et c'est quand l'examen, c'est quand Jésus aura besoin d'un fruit. C'est quand Jésus aura besoin de vous. Ce sera l'examen. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura. Vous savez, l'examen, ce n'est pas dimanche matin, hein? Il y a des gens qui se préparent le dimanche matin comme s'ils se préparent pour un examen. Et donc, ils s'habillent, ils s'arrangent, ils amènent leur Bible, ils préparent bien les enfants, s'ils en ont, et ils se pointent là. Mais c'est une apparence. Ça demeure juste une apparence. Fondamentalement, à l'intérieur, il n'y a rien. Mais les gens se préparent comme, font une prière peut-être, se préparent le samedi soir, le dimanche matin, se préparent pour arriver dans une condition qui paraît acceptable dans le contexte d'église d'un dimanche matin. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire à ce moment-là? Est-ce qu'on est en train de jouer la comédie? Est-ce qu'on est en train d'être comme le figuier avec feuilles mais sans fruits? Peut-être. Mais allons à la base, allons au fondement de la parole de Dieu pour porter du fruit. Maintenant, on a vu cela et j'espère que cette diapositive, elle est claire pour vous, vous montre l'essentiel pour porter du fruit. Là où Jésus regarde. Là où Dieu regarde. Et donc là où ce que nous également, nous devons porter notre attention. Maintenant, le fruit de l'esprit. Parce qu'on nous dit de porter du fruit. OK. Et c'est quoi ce fruit-là? J'ai entendu, on dit le fruit, ce sont les âmes, le fruit, ce sont les œuvres, le fruit ou les fruits, ce sont les fruits de l'esprit. Bref, j'ai entendu beaucoup de différentes versions de ce quel est le fruit selon la Bible. Et Galate répond à cette question-là. Galate, pour lui, c'est clair. Qu'est-ce que le fruit selon Dieu, selon la vision divine et la vision biblique? Il dit, mais le fruit. Et il ne parle pas des fruits. Bien souvent, on pense que chaque élément ici est un fruit. Non. Tous ces éléments-là font partie du seul et même fruit de l'esprit. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. C'est-à-dire qu'il y a bénignité s'il n'y a aucune malice, aucune mauvaise intention derrière le geste qui est posé. La fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance qui pourrait également être traduite par le contrôle de soi-même. Donc, mais le fruit, et là c'est clair, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On ne fait pas une énumération d'œuvres. On parle ici de qualité. qualité intérieure. Et c'est ça le fruit de l'esprit. Donc, c'est pas quelque chose qui commence à l'extérieur. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut. On peut essayer de jouer l'apparence d'amour, de joie, de paix, mais s'il n'y a pas cette racine en nous, s'il n'y a pas ce fondement en nous, ça ne tiendra pas longtemps. Et ce ne sera pas une joie qui va porter du fruit. Ce ne sera pas de l'amour qui va porter du fruit. Ce sera rien. Ce sera rien. Et donc, faut pas essayer de faire semblant d'avoir du fruit de l'esprit. On joue pas avec l'esprit de Dieu. On joue pas avec ces choses. Mais l'important, c'est que c'est clair pour vous, c'est clair pour chacun d'entre nous. Quel est le fruit? En d'autres mots, dans un parallèle spirituel, lorsque Jésus s'est approché du figuier pour trouver du fruit, dans un sens spirituel, quel est le fruit que Jésus cherchait? Le fruit de l'esprit. Quel est le fruit que Jésus recherche? Le fruit de l'esprit. Quel est le fruit que nous sommes portés ou appelés à porter en abondance, bien-aimés? Le fruit de l'esprit. Et ce sont des qualités intérieures qui reflètent Christ, qui reflètent la nature de Dieu. Et donc, on va aller dans Galates, donc on se promène. On va aller dans Galates, chapitre 5. Parce qu'encore là, il y a des éléments qui sont importants. Donc, on a déjà vu jusqu'à présent l'importance pour Dieu, c'est que nous portions du fruit. Et que la clé se trouve dans demeurer dans son amour, demeurer en lui, demeurer dans sa parole, demeurer dans son amour. Et que là, ça nous appelle également à avoir une vie de communion, une vie de prière, une vie de confiance, de foi, de confiance, d'obéissance et de persévérance. Je le mets tout ça là-dedans dans la foi parce que la foi va loin. La foi couvre beaucoup. Et on peut difficilement parler de foi. C'est difficile de parler de foi sans parler de confiance, sans parler d'obéissance, sans parler de persévérance. Et une vie de grâce, une vie de pardon, dans le fond. Et donc, en ayant la base, alors on peut porter du fruit. Quel fruit? Le fruit de l'esprit, que c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Maintenant, pour ceux qui se disent, ouais, mais il me semble que Dieu veut voir des âmes aussi, c'est pas le fruit également du travail. On va voir ça un peu plus tard. À la fin, on va le voir et on va comprendre certains éléments. Parce que Dieu parle aussi de l'importance des œuvres. Il dit, la foi sans les œuvres, elle est rien. Donc, est-ce que l'œuvre, c'est un fruit? On lui dit qu'on va être, on, nous sommes sauvés, mais nous allons quand même être jugés pour nos œuvres. Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que l'œuvre est un fruit? On va voir ça un petit peu. Quelques éléments que j'aimerais qu'on ressorte de Galates au chapitre 5. Okay. Premièrement, au verset 16, nous lisons, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Regardez en tête, marchez selon l'esprit. Au verset 18, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Au fait, on va lire au verset 27 qui dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes donc point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les vrogneries, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Dans ce que nous avons lu, entre le verset 16 et le verset 25, quatre éléments similaires. Marcher selon l'Esprit, être conduit par l'Esprit, vivons par l'Esprit et marchons selon l'Esprit. Donc, deux fois, on nous dit marcher selon l'Esprit et on nous dit également d'être conduit par l'Esprit et de vivre par l'Esprit. Marcher selon l'Esprit veut dire, c'est une marche avec Dieu, mais c'est une marche qui va en accord, qui est selon, donc qui va en accord, qui est conforme à, qui est sujet à, qui est soumise à une vie, donc qui est en obéissance à Dieu. Marcher selon l'Esprit, c'est ça que ça veut dire. Selon l'Esprit, c'est que ma marche, donc ma vie, s'ajuste aux requis de l'Esprit, s'ajuste aux conditions de l'Esprit, à ce que l'Esprit de Dieu demande de moi dans sa parole. Donc, la foi et l'obéissance sont de base pour marcher selon l'Esprit. Si vous êtes conduit par l'Esprit, c'est-à-dire que ma vie, elle n'est pas menée dans ma propre capacité, mais elle est menée par la puissance de Dieu qui agit en moi. Vivre selon l'Esprit, c'est être obéissant à Dieu, c'est de suivre ce qui est fondamental et essentiel à Dieu. Et on l'a vu avant, qu'est-ce qui est fondamental et essentiel? C'est de demeurer en lui, c'est de demeurer dans sa parole, c'est de demeurer dans son amour. Ça, c'est marcher selon l'Esprit. Parce que là, on est en obéissance, sujet à ce qui est essentiel à Dieu, à ce qui nous est demandé de Dieu. Donc, marcher selon l'Esprit, c'est appliquer ce qu'on a vu dans Jean 15 et Marc 11. Et si vous êtes conduit par l'Esprit, c'est pas marcher selon l'Esprit, c'est est-ce que j'ai une révélation, est-ce que Dieu va me donner une révélation? Non. On se trompe là-dedans. Parce que là, on tombe dans des choses dangereuses. On tombe dans du mysticisme parfois. On tombe dans du sensationnalisme. On tombe dans l'émotionnel et dans ce que les gens pourraient dire que c'est du pentecôtisme. Et c'est même pas du pentecôtisme. C'est rien d'autre. Des fois, c'est juste de l'émotion. L'esprit, c'est pas ça. Marcher selon l'Esprit, c'est pas que Dieu me révèle puis que je suis de révélation en révélation. Et non, bien aimé, marcher selon l'Esprit, c'est marcher selon, donc être assujetti, être obéissant à l'Esprit de Dieu, à l'essence de l'Esprit de Dieu, à ce qui est fondamental pour Dieu. Et ce qui est fondamental, on l'a vu, demeurons en lui, demeurons dans sa parole, demeurons dans son amour. Marcher selon l'Esprit, c'est ça. Être conduit par l'Esprit ou vivre par l'Esprit, à ce moment-là, c'est que c'est l'Esprit, c'est que Dieu nous donne cette capacité. Dieu nous donne cette force. Dieu nous donne cette volonté. Il nous donne le vouloir comme le faire. selon sa bonne volonté. Donc, est-ce que Dieu va vouloir m'aider dans ma quête de vouloir porter du fruit? Ben, bien sûr. Est-ce que Dieu va vouloir m'aider dans mon désir de m'abstenir de ce qui est mal, de m'éloigner de ce qui est du péché et de me diriger vers une vie qui lui est agréable? C'est sûr qu'il va nous aider. C'est sûr que la puissance de Dieu va agir en nous dans ce sens-là. Donc, si nous vivons par l'Esprit, c'est parce que nous vivons par sa force, nous vivons par sa grâce, nous vivons par sa sagesse, nous vivons par son pouvoir, nous vivons par son autorité, nous vivons par sa souveraineté, nous vivons par son amour et sa miséricorde. Vivre par l'Esprit, c'est cela. Et être conduit par l'Esprit, c'est également, je suis conduit par l'amour de Dieu, je suis conduit par la puissance de Dieu. Je passe à travers des situations qu'autrement j'aurais jamais pu passer. Humainement parlant, il m'aurait été impossible de pouvoir passer. Mais parce que je suis un témoignage vivant de la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la provision de Dieu, elle est là et je peux passer à travers ces épreuves et je passe à travers ces tempêtes. Et le nom de Dieu est glorifié, le nom du Seigneur est glorifié. Donc encore ici, on retrouve les mêmes choses. La base. Demeurer en lui, demeurer dans sa parole et demeurer dans son amour. Et ça nous fait comprendre que le fruit est spirituel. Le fruit est en nous. L'amour commence où? L'amour commence pas dans l'âme que je dis, bon, allez Seigneur, je te présente une âme qui vient. Non, l'amour n'est pas non plus dans les œuvres. L'amour commence en dedans de moi, en moi. Le fruit est en moi. Jésus, quand il regarde mon feuillage de religieux, il va voir, est-ce qu'il y a du fruit? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de la patience? Est-ce qu'il y a de la bonté? Est-ce qu'il y a la bénignité? Est-ce qu'il y a la fidélité? Est-ce qu'il y a la douceur? Est-ce qu'il y a la tempérance? C'est ça ce que Jésus va voir. Le fruit est en toi. Le fruit est en moi. Verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates nous parle de cette dualité, nous parle de cette rivalité, de ce clivage entre la chair et l'esprit. Entre vivre selon la chair ou dans la chair et marcher ou vivre par l'esprit. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par la chair? Dans le fond, c'est tout ce qui est en nous, dans une personne, s'oppose à Dieu et à sa volonté. La chair, mes amis, c'est pas juste l'attraction sexuelle, c'est pas juste les passions sexuelles. La chair, c'est tout ce qui dans ma vie, ok, s'oppose à Dieu et à sa volonté. La chair, en toi, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu et à sa volonté. Remarquez une chose, je ne sais pas si vous avez remarqué. Au verset 19, on nous dit que les œuvres de la chair sont. Donc, on parle d'un côté des œuvres de la chair et de l'autre côté, on parle du fruit de l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des œuvres de l'esprit? Si on se dit, ben, il faut comparer des pommes avec des pommes, si la Bible parle des œuvres de la chair, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas des œuvres de l'esprit? Encore là, parce que le fruit, ce n'est pas l'œuvre. Parce que si l'importance aurait été mise dans l'œuvre. À ce moment-là, les gens auraient utilisé ça pour faire encore plus de détournements. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi dans la grâce de Dieu. Et donc, l'essentiel n'est pas dans les œuvres. Oui, les œuvres sont importantes, mais je peux faire une œuvre sans voir l'amour, je peux faire une œuvre sans voir la patience. Je le fais par religiosité, je le fais par d'autres motivations, mais pas par les qualités que Jésus veut retrouver en moi. Donc, je peux faire une bonne œuvre et être faux. Je peux faire une bonne œuvre et faire semblant d'eux. Et c'est pour cela que ce n'est pas les œuvres ici qui est le fruit, c'est la qualité intérieure. Oui, l'œuvre va découler, va suivre, ou les œuvres vont suivre cette qualité-là, mais à la base, c'est pas ça le fruit. Le fruit, c'est la qualité intérieure. Donc, il y a une différence à faire là. Les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Et donc, porter du fruit, c'est avoir cette liberté-là, de penser et d'agir selon la nature de Dieu et la volonté de Dieu. Parce que la chair, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu. Mais l'esprit, c'est tout ce qui vit selon la nature et selon la volonté de Dieu. Et c'est dans quelles conditions que je porte du fruit? C'est lorsque je marche selon l'esprit et que je vis par l'esprit. Et la semaine prochaine, on va parler de ça. On va parler de la chair, de l'esprit, d'être dans l'esprit. On va développer un petit peu plus. Je pense que c'est important qu'on simplifie les choses premièrement, mais qu'on les explique d'une façon à ce qu'elles soient claires pour chacun d'entre nous. Parce qu'encore là, arriver à un examen et ne pas être prêt, c'est un échec. C'est voué à l'échec, là. Donc, préparons-nous pour l'examen. Quand Dieu s'approche de nous pour voir si nous avons du fruit, soyons prêts pour cet examen-là. Donc, la semaine prochaine, nous allons développer davantage sur l'esprit, la chair et toutes ces choses-là. Je pense que ça serait très important qu'on en parle et, comme je dis, qu'on clarifie certains éléments et qu'on simplifie aussi un peu les choses. Donc, le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je termine avec une petite histoire. À la fin du 19e siècle, il y a une petite fille appelée Annie qui, à l'âge de 8 ans, s'est retrouvée dans une hospice pour personnes souffrant de graves problèmes mentaux, des retards. Des handicaps mentaux. Cette jeune fille, Annie, avait eu, cet enfant, dans le fond, avait eu une enfance très difficile avec la famine, avait connu la famine au temps où il y a eu la famine irlandaise. Ils sont arrivés en Amérique avec sa famille dans la région de Boston. Sa mère est décédée à l'âge, alors qu'elle avait 8 ans. Et le papa n'a pas été capable de prendre soin de la famille, donc les enfants ont été dispersés. Ils avaient 3 enfants, et 2 d'entre eux, dont Annie et son plus jeune frère, qui avaient également des problèmes de santé assez graves, se sont retrouvés dans cet hospice-là. Le jeune frère est mort quelques mois après, et Annie donc s'est retrouvée dans cet hospice-là. Elle avait aussi des graves problèmes oculaires et des graves problèmes aussi qui affectaient son développement et sa capacité de communiquer avec les gens autour, donc avec son environnement. Les docteurs ont essayé plusieurs traitements, plusieurs façons de l'aider, mais aucun traitement n'a porté fruit. Et puis, elle s'est donc retrouvée à 8 ans dans une section de cet institut-là. À Tewksbury, dans la région de Boston, dans le sous-sol, une section que certains gens ont appelée le donjon. C'était une section dans le sous-sol où est-ce que les gens qui avaient plus espoir de pouvoir retrouver une vie normale dans la société, finissaient leurs jours, tout simplement, dans des cellules, dans des cages, dans l'obscurité presque, sans peu d'attention, des oubliés, des gens qu'on oubliait dans le fond, dans le donjon de cet institut-là. C'est là où est-ce que la petite Annie s'est retrouvée. Mais dans cet institut-là, il y avait une infirmière qui était près de la retraite. Et cette infirmière-là était chrétienne. Et cette infirmière-là, lorsqu'elle a appris la situation avec la petite Annie, elle a eu beaucoup de compassion parce que pour elle, toute créature est importante. Elle a donc décidé de prendre ses heures de lunch, son moment de dîner, pour aller s'asseoir devant la cellule de la petite Annie et de lui parler, de prier pour elle, de lui faire de la lecture et d'essayer d'entrer en contact avec elle. Et elle a aussi commencé à préparer des petits gâteaux, des petits biscuits pour les laisser là. Et les premiers mois, et je dis bien les premiers mois, il n'y a eu aucune réaction. Rien s'est passé. Même que la petite avait parfois des comportements très agressifs, ne pouvait pas, n'était pas une personne normale, ne fonctionnait pas comme un enfant normal. On peut comprendre dans la situation dans laquelle elle se trouvait. Et donc, cette infirmière chrétienne a persévéré. A persévéré jusqu'au jour où est-ce qu'un matin, elle s'est approchée, elle a vu que les gâteaux n'étaient plus là. Et à partir de ce moment-là, elle a vu qu'il y avait un espoir. Et donc, elle a continué à prendre du temps avec elle, dans son heure de le dîner, pour lui parler, pour prier, pour lui faire la lecture. Et peu à peu, la petite fille a commencé à avoir des réactions et à établir un contact avec cette infirmière-là. Suffisamment de contact, suffisamment de réactions pour que l'infirmière soit en mesure de convaincre les docteurs de lui donner une autre chance à cette jeune fille. Cette jeune fille, donc, elle a eu une autre chance. Et cette fois-ci, les traitements ont porté fruit avec l'aide de cette infirmière-là. Ce qui fait que 2 ans plus tard, on annonçait à cette jeune fille-là qu'elle pouvait quitter l'hospice et qu'elle pouvait vivre une vie normale. Mais la jeune fille a décidé de ne pas partir. Elle a refusé de partir. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, à travers la vie de cette infirmière, lui sauva la vie et lui fit comprendre l'importance de prendre soin des autres. Et donc elle s'est dit, si quelqu'un a pris soin de moi, a pris le temps de s'occuper de moi, qui avait des problèmes oculaires et d'autres problèmes de développement, donc elle dit, je vais dédier ma vie à aider d'autres, à aimer et à aider d'autres personnes. Et lorsqu'elle a eu 20 ans, okay, c'était jeune, à 20 ans, on lui a demandé de s'occuper d'une petite fille. D'une petite fille qui était sourde, muette et aveugle. Et cette petite fille-là, qui était dans ces conditions-là, s'appelait Helen Keller. Maintenant, je ne sais pas si vous savez c'est qui Helen Keller. Mais Helen Keller fut la première femme sourde, muette et aveugle, diplômée d'une université. Et elle fut une auteure prolifique. De sa génération, elle a écrit une douzaine de livres. On a même fait un film sur sa biographie, sur sa vie. Elle a eu des conférences partout dans le monde. Elle a contribué à différentes causes, le droit des femmes, l'antimilitarisme, mais également la prise de conscience dans la société des conditions des personnes sourdes, muettes et aveugles. Donc, elle a fait beaucoup de levées de fonds pour que les gens prennent conscience et pour que les gens développent des soins pour ce type de personnes-là. Elle a également reçu un des plus grands honneurs qui était possible pour une personne en Angleterre par la reine Victoria à l'époque. Ça, c'est Helen Keller. Et la petite Annie, c'est Annie Sullivan. Et vous verrez, ils ont marqué leur génération, ces deux femmes-là. Helen a vraiment marqué sa génération, mais Helen n'aurait pas pu le faire sans Annie. Annie, qui à l'âge de 20 ans, a décidé de, par amour, parce qu'elle avait reçu l'amour de Dieu dans sa vie, à travers la vie d'une infirmière, a décidé de dédier sa vie. Voyez, on pourrait dire, ouais, voilà les fruits. Ouais, mais le fruit était dans cette infirmière-là, qu'on ne connaît même pas le nom dans l'histoire. J'ai essayé de trouver son nom, je l'ai pas trouvé. C'était ça. Le fruit était dans la vie de cette infirmière-là qui a eu la compassion, qui a eu la patience, qui a eu la persévérance de s'asseoir devant une cellule, une cage, et de parler pendant des mois sans avoir aucune réponse, de poser des gestes sans avoir aucun résultat. Mais qu'à un moment donné, il y a eu ce déclic. Et ce déclic a conduit à que plusieurs années plus tard, il y ait une femme qui a vécu une vie vraiment modèle, une vie exemplaire et qui a eu un impact dans sa génération, ayant les conditions de vie qu'avait Helen Keller. Tout ça pour dire que quand il y a du vrai fruit, ça se voit. Ça se voit et des vies vont être changées. C'est le fruit de l'esprit qui touche d'autres personnes. C'est le fruit de l'esprit qui va avoir un impact dans la vie d'autres personnes. Et l'impact, on ne sait pas jusqu'où il va aller. Donc, remettons les choses en ordre et assurons-nous de porter du fruit. Voilà Annie Sullivan. Annie Sullivan et Helen Keller, et plus tard Helen Keller, qui est décédée dans les années 60. Donc, je vous raconte pas, c'est pas une histoire que je vous raconte. C'est des gens qui ont vraiment existé. Mais tout cela a été possible parce qu'une femme chrétienne portait du fruit. Donc, ton fruit, qu'est-ce qu'il va produire dans le monde en 2021? En résumé, nous sommes le figuier appelé à donner du fruit quand le Seigneur en a besoin. Porter du fruit, c'est avoir une vie de prière, une vie de foi, une vie de pardon. Et la clé pour porter du fruit, c'est de demeurer en lui, demeurer dans sa parole, demeurer dans son amour. Et le fruit de l'esprit est en nous. Ce sont des qualités spirituelles. La chair s'oppose à cela, s'oppose à Dieu, à ce qui est sa volonté, mais porter du fruit, c'est cette liberté de vivre selon la nature et la volonté de Dieu. Là où est l'Esprit de Dieu est la liberté. Et Jésus est venu nous rendre libres. Nous avons cette liberté à travers Jésus-Christ de pouvoir mener une vie qui va porter du fruit pour la gloire de Dieu. Donc, nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te demandons, Seigneur, de prendre soin de nous, de nous garder, Seigneur, dans tes voies, de nous permettre, Seigneur, d'avancer en toi, de nous permettre, Seigneur Jésus, de découvrir davantage tes bontés, ta fidélité, Seigneur, ta grandeur. Le fondement même, Seigneur, de notre vie. Que nous ayons ces qualités-là qui font le fruit de l'Esprit. Pour que vraiment il y ait un impact, Seigneur, dans le monde. Seigneur, on regarde tellement les choses tout croche, Seigneur Jésus, bien des fois dans notre vie. On est désorganisé, Seigneur. On court comme des poules, Seigneur, sans tête. Mais permets-nous, Seigneur, de nous recentrer dans les bonnes choses, dans les vraies choses, dans ce qui est essentiel et fondamental dans notre vie. Et que nous puissions avancer là-dedans et porter du fruit pour la gloire de ton nom. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, je vous laisse, que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien. Bon restant de semaine. N'oubliez pas les bénédictions matinales qui se poursuivent. Donc, que le Seigneur bénisse. Bonne soirée. Je vous dis shalom. À la prochaine. Bye bye.